Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Ludovic Auger.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Après avoir achevé hier notre série sur l'économie de l'alimentation, c'est un débat d'actualité économique que nous vous proposons comme chaque vendredi. Cette semaine a été marquée par le démarrage de l'une des plus grosses opérations de fusion qu'ait connue l'industrie automobile, le mariage entre Renault et Fiat Chrysler. Un projet qui se heurte déjà à de nombreux obstacles et qui nous interroge sur les réussites et les échecs des fusions d'entreprises. À l'heure où la valeur en bourse de Bayer, qui a racheté Monsanto il y a un an, a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Alors pourquoi certains mariages d'entreprises réussissent-ils quand d'autres échouent? Le rapprochement crée-t-il nécessairement de la valeur? Et que faut-il attendre d'une alliance entre Renault et Fiat Chrysler? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Pierre Concialdi nous fera découvrir l'ouvrage testament du grand économiste des inégalités, Anthony Atkinson. Et pour parler mariage et alliance d'entreprise, trois invités autour de la table. Bonjour Bernard Julien.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux et directeur du GERPISA, le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. À vos côtés, Patricia Charletti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie et de finance à l'ESSEC. Et enfin, Philippe Chalmin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, économiste à l'université Paris-Dauphine et auteur de cet ouvrage, Une brève histoire économique d'un long 20e siècle, paru cette année aux éditions François Bourin. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Si le projet de fusion se fait, ce sera un projet de fusion d'égal à égal, 50-50. Donc l'État aujourd'hui a 15% dans Renault, la part de l'État passera de 15 à 7,5%. La part de Nissan passera aussi de 15 à 7,5%. J'ai dit très clairement au président de Renault, Jean-Dominique Sénard, que c'était la première des garanties que je lui demandais dans l'ouverture de ces négociations avec Fiat.
Si Fiat cresce, una buona notizia per l'Italia.
Si Fiat grandit, ce sera une bonne nouvelle pour l'Italie et les Italiens. C'est une opération brillante qui s'annonce, une opération tournée vers l'avenir qui protégera les emplois dans ce pays. En faisant naître un géant européen.
Nascere a far crescere un gigante europeo.
Voilà, vous avez reconnu le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le vice-président du conseil italien Matteo Salvini. Alors le conseil d'administration de Renault a donc accepté en début de semaine d'examiner le projet du constructeur italo-américain. Bernard, Julien, pourquoi Fiat Chrysler cherche-t-il aujourd'hui à se rapprocher de Renault pour commencer ?
Moi, je dirais que Fiat Chrysler s'est mis un peu tout nu sur le plan technologique, sur le plan des produits, que c'était une opération qui était planifiée. Hein. On sait que depuis pratiquement 10 ans, les dirigeants de Fiat Chrysler font le tour du monde pour trouver quelqu'un pour les épauler, tant ils se sont dégarnis hein, sur le terrain des politiques produits, sur le terrain des outils industriels et sur le terrain des outils technologiques. Il se trouve que en Europe, mais aussi en Chine et ailleurs dans le monde, on a aujourd'hui une obligation d'électrifier très rapidement ces gammes. Ce qui va, chacun le sait, coûter extrêmement cher. Et donc, d'évidence, FCA, Fiat Chrysler, a besoin de trouver à s'adosser à un ensemble. Donc, on s'attendait à ce qu'ils se vendent. Et puis, ils tentent ce coup extraordinaire, hein, comme on a eu l'habitude depuis Marchionne au moins, de tenter une alliance entre égaux, alors que d'évidence...
Marchionne, l'ancien PDG de Fiat Chrysler, qui est mort il y a un an, je crois.
Voilà. Moi, ce que je dirais, si vous voulez, c'est que capitalistiquement, ça se défend. Hein, mais quand on regarde la manière dont sont évalués par la communauté financière et par les spécialistes de l'industrie, on n'est pas dans une alliance entre égaux. Hein. On a clairement un Fiat Chrysler qui use de sa position assez favorable sur les marchés financiers pour prétendre faire une alliance entre égaux là où ils sont infiniment plus demandeurs que ne l'est Renault.
En l'occurrence, Fiat Chrysler est en retard sur la voiture électrique. C'est ce qu'elle attend de Renault. Mais aussi, ce qui se dit, c'est que c'est aussi pour se rapprocher de Nissan que Fiat Chrysler cherche cette alliance aujourd'hui ?
Alors ça, c'est un des problèmes, évidemment, centraux hein, dans cette affaire-là. C'est que, d'évidence, Jean-Dominique Senard a vendu non seulement les actifs de Renault, mais aussi ceux de Nissan et de Mitsubishi, dont aurait besoin éventuellement la partie américaine pour verdir un tout petit peu ces produits qui sont quand même très inquiétants sur le plan environnemental. Mmh. Et puis, ben, dans le même temps, Jean-Dominique Senard a un peu oublié de prévenir Nissan et Mitsubishi. Hein, donc, on sent bien que ça va être compliqué de tenir ses promesses. On sait bien que dans les alliances, on en reparlera certainement, ou dans les fusions, les synergies sont difficiles à trouver. Donc là, s'il s'agit de trouver des synergies entre l'ensemble de ces parties prenantes, autant sur le papier, c'est à peu près défendable, autant dans la réalité, pour faire fonctionner les équipes ensemble, pour les convaincre qu'ils ont des intérêts mutuels à coopérer, il va y avoir des difficultés qui sont très classiques dans ces opérations-là et sur lesquelles on peut aujourd'hui avoir quelques doutes.
Fiat Chrysler espère que Nissan pourra lui apporter des avantages en termes d'implantation sur le marché chinois. C'est l'un des aspects...
Si j'étais un peu méchant, je dirais, étant donné comment ils sont en train d'aider Renault à s'implanter en Chine, je serais Fiat Chrysler, je me méfierais un petit peu de cette espèce de courte échelle que devrait lui faire Nissan pour s'implanter en Chine.
Philippe Chalmin, sur ce rapprochement et les intérêts de Renault et de Fiat Chrysler dans cette possible fusion.
Je partage le scepticisme de notre interlocuteur. Il est clair que, d'abord, la notion même de fusion entre égaux, on en parlera peut-être un peu plus tard, elle tient de l'utopie et de l'escroquerie intellectuelle. C'est une belle invention des seuls, au fond, qui actuellement sont en train de faire fonctionner leur tiroir caisse, qui sont les banquiers conseils, Goldman Sachs pour ne pas les nommer en ce qui concerne Fiat, et des anciens de Goldman Sachs en ce qui concerne Renault, et puis éventuellement les avocats conseils. Cela, de toute façon, l'heure du jackpot est venue. Pour le reste, moi là où je suis extrêmement sceptique, c'est d'un point de vue, au-delà même du management, d'un point de vue culturel. Des fusions transnationales, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile à faire, et donc j'ai du mal à imaginer comment cela pourra fonctionner en termes de management, en termes bien entendu aussi de synergie, car qui dit synergie, on nous promet 5 milliards d'euros, mais les 5 milliards d'euros, il va bien falloir les trouver quelque part, c'est-à-dire probablement en fermant quelques capacités en France et surtout quand même probablement en Italie. Et puis, il faut, alors si je reprends une casquette purement française, je suis totalement d'accord, c'est à la limite du hold-up, dans la mesure où Fiat Chrysler profite d'une valorisation un petit peu exceptionnelle. Si on regarde sur une dizaine d'années, en moyenne, si je trace une moyenne, FCA, et Renault ont eu à peu près le même poids financier. Donc, pourquoi les déséquilibrer ? Comment va-t-on monter cette structure ? Et puis, alors là, je serai même encore plus cocardier et je défendrai l'unification fiscale européenne. Pourquoi diable, vous me direz, c'est comme Airbus, aller mettre la holding de tête, comme par hasard, aux Pays-Bas ?
Alors, beaucoup de questions que vous avez soulevées, Philippe Chalmin. Je vais vous donner la parole, Patricia Charletti. On voit ce que Fiat Chrysler a trouvé chez Renault. On voit peut-être moins ce que Renault a trouvé chez Fiat Chrysler.
Oui, alors c'est vrai que je connais moins le cas de l'industrie automobile donc que mes collègues. Ce que Renault trouverait chez Fiat Chrysler, ce serait peut-être effectivement à d'autres marchés, mais dans cette...
En Amérique du Nord, notamment.
D'autres marchés en Amérique du Nord, notamment.
Presque seulement, quand même.
Mais effectivement, donc, je partage ce qui a été dit, c'est qu'il me semble que l'intérêt va surtout dans le sens de Fiat, qui a sans doute raté... un peu plus que les autres, la révolution technologique. Il y a beaucoup d'enjeux dans l'industrie automobile actuellement. Donc il y a l'électrique, effectivement, les voitures autonomes. Je cherchais le terme. Et Renault a sans doute beaucoup plus d'avance dans ces domaines que Fiat. Donc sans Renault, doute que Fiat cherche. Enfin, je dirais que c'est sans doute une opération que j'appellerais peut-être un peu défensive finalement. Hein, c'est pour rattraper ce qu'on n'aurait pas fait.
Ça intervient à un moment où Renault est peut-être fragilisé dans le siège de l'affaire Carlos Ghosn, Bernard Julien, et on peut se demander du coup quel serait l'intérêt de cette fusion entre Renault et Fiat Chrysler pour Nissan. Qu'est-ce qui se passe du côté de Nissan ?
Alors, bon, Nissan a été très poli en disant qu'ils s'intéressaient beaucoup au dossier ces deux derniers jours. Mais d'évidence, leur position aux États-Unis de concurrent de Chrysler les met dans une espèce de doute. Et on leur demanderait, au fond, d'épauler en aidant Ram, une des marques importantes de Fiat Chrysler, et Jeep, à verdir un peu leurs produits, ce qu'ils sont incapables de faire seuls, pour finalement avoir des concurrents plus puissants demain, quoi. Donc c'est tout ceci va être infiniment compliqué. Et comme on le disait à l'instant, entre les synergies potentielles qu'on exhibe sur le papier et la capacité à les dégager, il y a un travail qui est souvent de longue haleine. Il y a une capacité culturelle, hein, parce que les nationalités sont pas les mêmes, parce qu'aussi les cultures des ingénieries sont très fortes, hein. Moi, une des craintes que j'ai, si vous voulez, c'est que Jean-Dominique Sénard ait confondu le pneu avec l'automobile, quoi, hein. C'est-à-dire que dans l'automobile, dégager les synergies, c'est encore plus compliqué que dans d'autres métiers, parce qu'il y a 25 spécialités différentes qu'il faut accorder, qu'industrialiser un véhicule, que le concevoir, etc. Tout ceci fait que très souvent, ça marche pas.
Et en même temps, si jamais Renault, Fiat Chrysler, Mitsubishi et Nissan s'alliaient, ils deviendraient le premier constructeur mondial de l'automobile, oui, devant Volkswagen.
Ça, c'est une histoire qu'on peut raconter aux étudiants, aux analystes.
Ça, si ça, ça n'est pas tentant. Ça serait quoi, 16 millions de véhicules vendus, ça ne fonctionnerait pas, selon vous?
Ça peut fonctionner, si vous voulez. Le problème, c'est que le tempo n'est pas celui des marchés, c'est-à-dire que ça va pas être... on voit bien dans le cadre Renault-Nissan que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et 20 ans qu'ils peinent à dégager les synergies, et toute l'histoire de l'automobile nous raconte ça. Prenons pour nous Français le cas de Peugeot et Citroën, hein, ce sont deux entreprises qui fusionnent, hein, Peugeot ayant le rôle dominant en 1977, si je ne me souviens pas, et on est encore en train de parler de communalisation des plateformes, des moteurs, etc. Hein, et si je prends un exemple, hein, la première Peugeot qui passera sur une ligne de fabrication Citroën, ce sera la 407, 22 ans ou 23 ans après le début. Hein, donc c'est cette dimension-là qu'il faut prendre.
C'est joli sur le papier, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, Philippe Chalmin.
Oui, je pense d'ailleurs que la grande vague de fusion des années 20 qui avait donné lieu à la création de General Motors, elle a mis quand même énormément de temps à se concrétiser. Donc je crois qu'il y a quand même dans cette affaire, effectivement, c'est pas simplement, comme vous l'avez dit, la simple rencontre de Fiat et de Renault. Il y a effectivement le troisième joueur, qui est Nissan. Et de Nissan, je me demande si cette affaire ne donne pas une sorte de porte de sortie facile pour Nissan. Il y a quelqu'un qui est quand même excessivement dangereux, c'est le patron actuel de Nissan, Hiroto Saikawa, dont tous les échos que l'on peut en avoir sont relativement médiocres, soyons honnêtes, voire pire, qui n'a qu'une idée, c'est de sauver sa peau. Donc il a trahi Ghosn pour des tas de raisons bonnes et mauvaise, et aujourd'hui il n'a qu'une envie, c'est d'une manière ou d'une autre de se dégager de l'emprise de Renault, même si aujourd'hui, mais il y a un spécialiste de l'automobile qui pourra le dire, la convergence est quand même relativement presque irréversible.
Nissan pourrait tenter de récupérer sa liberté, Bernard Julien.
Oui, alors, enfin, c'est vrai que moi je dirais que Jean-Dominique Sénard a été assez maladroit depuis qu'il a les rênes, hein, c'est-à-dire qu'il est parti dans une espèce de retricotage de l'alliance dans un premier temps. Ensuite, il y a eu cette opération de fusion qui a été relancée, je dirais, au plus mauvais moment. Et maintenant, il y a ce troisième temps qui va rendre tout cela très difficile, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un boulot absolument phénoménal. Et le problème que je vois, c'est que ça absorbe une partie majeure de l'énergie managériale dans un moment où, comme nous le disions il y a un instant, il y a autre chose à faire que ces mazarinades, si vous voulez, dans l'automobile. Hein, il y a des vrais dossiers industriels, il y a une urgence à se positionner sur les dossiers technologiques, il y a évidemment un problème chinois qui se pose à chacun et qu'il va falloir régler. Hein, donc si on reste l'arme au pied sur l'ensemble de ces dossiers-là pour s'occuper de problèmes de gouvernance, c'est du temps perdu.
Et un mot peut-être sur le fait que Fiat a choisi Renault plutôt que PSA, c'est un camouflet pour PSA, Bernard?
Oui, mais en même temps, c'est assez compréhensible, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le grand problème de Fiat Chrysler, c'est qu'ils sont absolument incapables de faire face à l'exigence écologique, environnementale, réglementaire. C'est pas PSA qui est à peu près aussi nu sur le terrain de l'électrique qui pouvait leur apporter quelque chose.
Mais ça va avoir des conséquences importantes sur PSA, si jamais cette fusion entre Renault et Fiat Chrysler avait lieu?
PSA se trouve un peu esselé dans une course au mariage, les fiancés potentiel se raréfie, hein, donc on parle d'une opération éventuelle avec Jaguar Land Rover, mais ce sont de tout petits volumes, et c'est pas ça qui réglera le problème, quoi.
Entrons un petit peu dans le détail de ce qui fait une fusion d'entreprise. Pour quelles raisons, Patricia Charletti, deux entreprises décident-elles de fusionner? C'est d'abord pour générer des économies d'échelle?
Bon, je dirais qu'il y a presque autant de raisons que d'opérations. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, dans la plupart des cas, on parle de synergie. Donc synergie entre guillemets, ça recouvre un très grand nombre d'opérations différentes. Donc les synergies, c'est soit effectivement pour mettre en œuvre des économies au niveau industriel, donc des économies d'échelle, des compléments de gamme. Ça peut être aussi dans certains cas, une amélioration de la valeur globale des deux entreprises venant d'une entreprise qui serait moins bien gérée que l'autre et qui serait rachetée. Bon, ça, c'est complètement différent.
Il y a aussi peut-être cette possibilité d'accroître son pouvoir de négociation quand on est une entreprise plus importante.
Voilà, donc si on est plus important, effectivement, on a plus de pouvoir de marché, donc à la fois de pouvoir de négociation, on va dire, avec les fournisseurs, avec les clients, puisqu'on peut augmenter les prix. Donc clairement, les opérations horizontales, peuvent avoir un impact positif en termes d'économie d'échelle, mais on...
Une fusion horizontale, vous pouvez nous expliquer
ce que c'est ? Oui, une fusion horizontale, c'est dans le même secteur, ce qui est le cas, on va dire, de Fiat Chrysler et Renault. Donc ça crée une entreprise, comme vous l'avez souligné, qui serait plus grosse et qui, du coup, aura plus de pouvoir de marché. Et c'est vrai qu'il y a aussi des inconvénients à avoir du pouvoir de marché, non pas pour les entreprises elles-mêmes, mais pour les autres partenaires et les consommateurs notamment.
Philippe Chalmin, vous diriez que la mondialisation a rendu nécessaire les fusions d'entreprises, les firmes doivent grossir pour sortir du lot sur le marché mondial ?
C'est pas forcément uniquement la mondialisation, je crois que c'est dans l'histoire des hommes. L'histoire des entreprises nous montre des histoires d'entreprises qui grossissent. Alors soit de manière verticale, c'est-à-dire en achetant des petits camarades, soit, on l'a un peu oublié, de manière conglomérale, on a eu de grandes époques du conglomérat. Souvenez-vous, durant les 30 Glorieuses, nous avions ITT, qui était le numéro un des télécoms presque au niveau mondial à l'époque, mais qui avait aussi les hôtels Sheraton, les voitures de location Avis, etc. C'était le conglomérat. Et puis, les conglomérats ont éclaté, bien souvent sous le coup d'ailleurs des spécialistes et de merger and acquisition, etc., qui ont dit il faut redonner la valeur aux actionnaires. Bon, on a eu un superbe conglomérat en France qui s'est appelé la CGE. Souvenez-vous, la CGE dont nous vivons la disparition des derniers morceaux, Alcatel, Alstom, Nexans, etc. Siemens serait peut-être, et Siemens n'est pas dans une configuration excellente aujourd'hui, un des derniers de ces conglomérats. General Electric en est un exemple aussi. Donc il y a eu je pense que c'est la vie des entreprises. À un moment, elles atteignent, alors surtout quand elles se sont trop diversifiées, elles atteignent un moment où, sous la pression des actionnaires, sous la pression d'un certain nombre de raideurs aussi, et on les oblige, volontairement ou non, à se couper des branches. Mais alors... Et donc, c'est un peu ça que l'on vit. La vie des entreprises, c'est en fond un peu comme la vie d'un homme. La jeunesse, la crise d'adolescence, première crise de croissance, la maturité, et puis la maturité,
plusieurs
on
mariages.
En fait trop, la vieillesse. Et puis, rare, au fond, j'ai essayé de regarder, puisqu'on parlait de fusion entre égaux. Eh bien, la seule fusion entre égaux qui ait duré sur la très longue... Il y en a deux auxquelles je pense, il y en a peut-être d'autres, qui sont toutes les deux anglo-néerlandaises, qui datent de l'entre-deux-guerres. C'est Royal Dutch Shell, qui était la fusion de la Royal Dutch néerlandaise et de la Shell anglaise, et Unilever. Et Unilever, on l'a oublié, mais c'est resté encore aujourd'hui une entreprise anglo-néerlandaise.
Alors justement, pourquoi est-ce que les fusions entre égaux ne fonctionnent pas? Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernard Julien, en quoi consiste cette fusion entre égaux qui est prévue entre justement Fiat Chrysler et Renault?
Alors tout ce qu'on sait, c'est ce qu'a été la proposition faite le week-end dernier. Ça consiste effectivement à faire comme si la capitalisation des deux entreprises étaient les mêmes, quitte à ce que, et ça c'est une dimension importante, quitte à ce que Renault paye le delta, Hein, c'est-à-dire, en l'occurrence, il s'agirait de régler 2,5 milliards d'euros.
Pour compenser la différence de capitalisation. C'est
une différence qui est très fortuite, hein, qui est liée à l'affaire Nissan, etc. Mais sur les fondamentaux, ça se justifie difficilement. Hein, d'ailleurs, je rappellerai quand même que quand Chrysler récupère, quand Fiat récupère Chrysler en 2009, ils font comme si les technologies qu'ils amenaient compensaient le delta, si vous voulez. Hein, donc on aurait pu imaginer un montage de ce type-là.
Je signale, parce que j'ai le graphique sous les yeux, en 2016, la capitalisation boursière de Renault était de l'ordre de 22 milliards d'euros et celle de FCA, alors d'accord, je prends le point le plus bas, était de 10 milliards d'euros.
Et quand je regardais ce matin sur Yahoo Finance, hein, ce qui est dit de la valeur intrinsèque des entreprises, on avait une qui est très proche de sa valeur boursière, c'est FCA aux alentours de 24 milliards, et Renault qui est aujourd'hui coté aux alentours de 15, est considéré comme valant 50 milliards. Hein, donc il y a évidemment un problème, et c'est peut-être une des raisons qui feront que le deal ne se fera pas.
Hein, donc, et en même temps, ça c'est le groupe Exor de la famille Agnelli qui serait le principal actionnaire, et malgré tout, il y aurait quand même une égalité entre les deux groupes.
Oui, alors il y aurait une égalité parce que chaque actionnaire offrirait sa participation divisée par deux, mais en divisant la participation des Agnelli par deux, on arrive à 15, en divisant la participation de l'État par deux, on arrive à 7,5, hein, ce qui donne un rôle de référence, ce qui fait que aujourd'hui l'opération est envisagée de la manière suivante, vous auriez une présidence italiano-américaine avec Elkann, hein, et puis probablement une direction exécutive qui serait plutôt française, hein, ce qui est une manière d'avouer malgré tout que le savoir-faire opérationnel, industriel et techno est plutôt du côté Renault, hein, mais il faudra voir évidemment dans l'année à venir comment les arbitrages seront rendus, et là on peut craindre. Moi ce que je dirais quand même à ce niveau-là, c'est que on a fait une structure actionnariale en France qui permettait de défendre l'industrie d'une certaine manière. Et quand on regarde la recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires chez Renault, on est quand même à des niveaux qui sont plutôt de l'ordre de 5%. Si on regarde la même chose chez Fiat Chrysler, on est plutôt à 2 points. Hein. Donc on a quand même une entreprise qui d'un côté est restée une entreprise industrielle hein, et qui a pu l'être parce qu'il avait un capital relativement patient. Et d'un autre côté, vous avez une entreprise très financiarisé, avec dès que la dette a été éteinte, hein, une distribution aux actionnaires qui a été très forte. Quand ils ont vendu Magneti Marelli 6,8 milliards, hein, ils ont distribué aux actionnaires 2 milliards, qui vont retoucher 2 milliards maintenant. Hein, donc il y a quand même une espèce de propension à privilégier l'actionnariat qui est inquiétante pour l'industrie automobile ou pour l'actif industriel.
Est-ce que vous diriez, Patricia Charletti, que si jamais les fusions entre égaux en général ne fonctionnent pas, c'est parce que finalement il y a toujours une entreprise qui finit par absorber l'autre?
Oui, alors est-ce que les fusions entre égaux ne fonctionnent pas? Donc effectivement, c'est plutôt l'autre point avec lequel je suis d'accord. C'est rare qu'il y ait en fait une égalité entre les deux entreprises. Il y en a toujours une dominante, il y en a toujours une qui finit par prendre le pouvoir sur l'autre.
En l'occurrence, Fiat a absorbé Chrysler.
Voilà, en l'occurrence, Fiat a absorbé Chrysler. Et effectivement, dans le cas qui nous intéresse, les rapports, la parité qui est proposée finalement, hein, 50-50, eh bien, effectivement, revient à donner plus de pouvoir à un gros actionnaire qui sera Fiat Chrysler. Et c'est vrai qu'avec même 15% du capital d'une entreprise, quand les autres actionnaires sont beaucoup plus petits, là, bah, on voit que les actionnaires finalement dominants ont quand même beaucoup, en fait, beaucoup plus de pouvoir qu'on pourrait le penser a priori. Donc c'est vrai que avec un actionnaire qui sera finalement, même s'il n'est pas très très majoritaire évidemment, il est quand même le plus gros, c'est vrai que le pouvoir sera du côté, il me semble, du côté de Fiat Chrysler.
Philippe Chalmin.
Oui, pour appuyer votre point, on a un exemple récent qui est Lafarge-Holcim. Lafarge était quand même le leader mondial du marché du ciment. Fusion entre égaux avec le numéro 2, ou à peu près de leur même taille, Holcim, entreprise suisse, contrôlée encore par une famille. Et à quoi est-ce qu'on a assisté ? À la prise de contrôle par les Suisses de Lafarge, qui dans ce cas-là ont été aidés par l'affaire syrienne qui a décapité pratiquement la tête de Lafarge au pire des moments. Le résultat aujourd'hui, alors c'est même symboliquement, le siège de Lafarge a fermé à Paris. Et maintenant, Lafarge-Holcim est une entreprise suisse.
Précisons que l'affaire syrienne, c'est les soupçons de collaboration de Lafarge avec l'État islamique.
D'où d'ailleurs l'importance qu'il y a à se poser la question. Renault est dans une situation Alors, il y a une tête qui est tombée, qui est celle de Ghosn. Jean-Dominique Sénard est un homme tout à fait remarquable, mais il a un âge un peu avancé, puisqu'il n'a même pas pu devenir président du MEDEF, souvenez-vous. Donc, il ne fera qu'un intérim. Et c'est là où les choses peuvent être inquiétantes. Car malheureusement, dans ce cas-là, Ghosn avait fait quand même très largement le vide autour de lui. Et personne ne parle d'ailleurs aujourd'hui de Thierry Bolloré.
Thierry Bolloré, qui est le directeur général de Renault.
Qui est le directeur général de Renault, qui est l'exécutif. Et quand je vois qu'on ferait de Jean-Dominique Sénard le directeur général du nouvel ensemble, avec comme chief operating officer... l'anglais américain, le patron de FCE,
Mike Manley.
Je suis un peu inquiet de ce point de vue-là. Ça se limite quand même parfois à des questions d'hommes totalement irrationnelles.
Mais alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la fusion? Et ça nous permet peut-être d'introduire un nouvel élément, Patricia Charletti. Il y a à la fois les alliances, il y a les fusions, il y a différentes manières pour les entreprises de se rapprocher.
Oui, donc la fusion, donc là, en général, il y a un échange, on va dire, d'actions, et donc on a une nouvelle entité qui résulte de la fusion des deux autres entreprises, des entreprises initialement séparées. Le plus souvent, les opérations passent plutôt par des acquisitions, donc soit des acquisitions de titres ou alors des acquisitions d'actifs, mais les acquisitions de titres, c'est ce qui représente la plupart des opérations en fait de fusion-acquisition. Donc on dit souvent fusion en englobant des opérations qui sont très très différentes. Et dans les acquisitions, donc là c'est vrai que ce qui différencie cette, en tout cas telle qu'elle est actuellement, la proposition, c'est que dans les acquisitions, donc ce qui est toujours clair, c'est que d'un point de vue de l'actionnaire, je dis pas forcément près du personnel de l'entreprise, mais du point de vue de l'actionnaire, c'est clairement toujours les actionnaires de l'entreprise achetée qui en bénéficient. Et donc là, moi, j'ai parfois l'impression effectivement que cette opération serait une acquisition sans payer la prime, finalement, qui serait une prime d'acquisition habituelle.
Et alors, est-ce qu'on peut imaginer une alliance entre Renault et Fiat Chrysler, Bernard Julien, plutôt qu'une fusion? Qu'est-ce que ça changerait quelque chose?
Moi, je pense qu'il y a un problème de cash, si vous voulez, du point de vue de l'actionnariat et en particulier de Exor. Ils ont réalisé, je l'indiquais tout à l'heure, l'opération Magneti-Marelli. Ils espéraient
Donc Exor, la famille Agnelli.
Et donc là, je pense que dans la capacité de Renault à faire le deal, il y a le fait qu'il puisse sortir les 2 milliards qui permettront de calmer une partie de l'actionnariat. Alors par rapport à la question ensuite du devenir de l'ensemble, moi je ferai quand même la remarque suivante. Dans l'automobile, si vous prenez les deux mondiaux les plus importants, vous avez Toyota, qui n'a jamais fait de croissance externe ou pratiquement pas, et qui atteint cette taille-là par croissance organique.
10,6 millions de voitures à peu près vendues chaque année.
Plutôt 10 aujourd'hui. Donc juste derrière, vous avez Volkswagen, et Volkswagen n'a fait que des acquisitions. Donc ça veut dire qu'ils ont pris le manche, si vous voulez, ils ont pris le contrôle des entités qu'ils acquéraient, que ce soit Skoda, que ce soit Seat, Audi autrefois, et par conséquent, ce que vient de faire PSA avec GM, c'est ça. Donc ça, c'est envisageable. La fusion entre égaux, dans un métier aussi compliqué que l'automobile, quand il va falloir nouer des compromis, c'est un petit peu malgré tout ce qu'a vécu Renault avec Nissan, parce qu'il y avait une espèce de compromis politique qui imposait cela. Ça ralentit singulièrement les opérations, et évidemment, les 5 milliards qu'on nous promet en termes de synergie, on les attendra longtemps, et peut-être on ne les atteindra jamais. Donc, accessoirement, toute l'énergie managériale, je me répète, mais toute l'énergie managériale qu'on met là, on la met pas ailleurs, on la met pas avec Nissan, on la met pas avec Mitsubishi, ce qui est quand même une entité qui vient d'être intégrée. Et puis surtout, on la met pas sur l'ensemble des projets qui devraient mobiliser l'industrie aujourd'hui.
Et puis il y a la question des cultures d'entreprise très différentes. C'est souvent un obstacle aux fusions, Patricia Charletti. C'est ce qu'on constate souvent. On anticipe mal les difficultés auxquelles on va être confronté.
Oui, c'est sûr que les synergies sont dans la plupart des cas surévaluées. Et une des raisons de la surévaluation, c'est effectivement l'absence de la prise en compte de méthodes différentes et qui après donc crée un très grand nombre de problèmes. Et effectivement, donc ça souvent beaucoup d'opérations finalement ne créent pas de valeur.
C'est ce qui explique par exemple l'échec de la fusion de l'allemand Daimler et de Chrysler en 1998. En l'occurrence,
oui, Bernard Julien. Chrysler est une entreprise extrêmement particulière. Les premiums ont toujours des cultures d'ingénierie extrêmement spécifiques. Donc, s'il fallait collaborer, trouver des compromis techniques, par exemple, ils étaient incapables de le faire. Donc, c'est un grand classique. Nous, on a fait un travail récemment sur ce que Renault faisait avec Nissan en Inde. On voit bien sur le terrain, sur les combien l'incapacité de faire une voiture ensemble, de partager un fichier Excel, de faire des tests sur les véhicules et puis ensuite d'industrialiser le véhicule, bah, c'est autant de problèmes qui retardent un projet et qui obligent finalement à donner le là à l'un contre l'autre. Donc la fusion entre égaux, c'est sur le papier sexy, c'est en réalité infiniment compliqué.
Philippe Chalmin.
Oui, alors en plus, dans ce dossier-là, nous avons quand même un petit problème franco-italien. J'entends bien que l'essentiel, les 90% des bénéfices de FCA, c'est aux États-Unis, mais pour nous, Fiat, c'est italien. On a entendu Bruno Le Maire et Matteo Salvini au début de l'émission. Et de ce côté-là, on a un sacré contentieux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises françaises qui ont pris des fleurons italiens. Faut-il rappeler LVMH, Bulgari, Fendi, Pinot, Gucci, Bottega Veneta, Lactalis vient hier de racheter le numéro 1 du parmesan. Ça ne vous dit rien, mais symboliquement, c'est très important.
C'est un enjeu politique important derrière tout ça.
De l'autre côté, quand ce sont les Italiens qui nous rachètent, on n'aime pas trop Fincantieri rachetant les chantiers de l'Atlantique. Vous avez vu les blocages qu'on avait eu à l'époque. Bolloré, quand il avait tenté Mediaset et dans l'autre sens, ça n'est pas trop marché. Et puis, on a un exemple quand même dont nous vivons actuellement la crise, qui était théoriquement une fusion entre égaux qui paraissait très très intelligente. Chacun d'entre nous a des lunettes, et donc le numéro un mondial du verre d'un côté, le numéro un mondial de la monture de l'autre, c'était génial. Ils sont totalement bloqués entre Essilor et Luxottica, et là aussi, avec le problème de Leonardo Del Vecchio, actionnaire majoritaire de Luxottica, qui pense, dans son fort intérieur, que c'est lui le patron.
Absolument. Mmh.
On voit les difficultés, effectivement, que peuvent poser ces différentes fusions ou accords ou alliances d'entreprises. On va continuer à en parler dans un instant. Entendez-vous l'écho sur France Culture, vous écoutez She'll Drive the Big Car de David Bowie. Patricia Charletti, Philippe Chalmin et Bernard Julien sont toujours avec nous pour parler des réussites et des échecs des fusions d'entreprises. Alors partons un petit peu en arrière et regardons l'histoire des concentrations d'entreprises. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire, Philippe Chalmin ? Ce que l'on constate, c'est que de grandes fusions ont eu lieu dès le début du XXe siècle.
Oui, mais alors attendez, faisons attention dans le vocabulaire. Je fais une énorme différence entre une entreprise achète un de ses concurrents, souvent plus petit, etc. Donc ça, c'est de l'acquisition. Et cette acquisition, bah, celui qui achète, y a un gagnant, un perdant, les choses sont claires. Là où c'est beaucoup plus rare, c'est lorsque vous avez cette fusion entre égaux. Et comme je vous le disais, moi j'en ai peu d'exemples dans l'histoire. Il y a deux entreprises aujourd'hui qui sont dans le top 100 mondial et qui sont le résultat de vraies fusions internationales et de cultures différentes. Ce sont dans les deux cas britanniques et néerlandais, c'est Royal Dutch Shell et Unilever. Et j'en ai pas tellement d'autres exemples, à moins que...
Mais la question qui se pose, Philippe Chalamin, c'est quelles sont les situations économiques propices aux fusions d'entreprises? Qu'est-ce que nous apprend l'histoire sur ce point?
Fusions d'entreprises, elles interviennent souvent dans deux cas. Soit lorsque vous avez des marchés euphoriques dans lesquels on peut éventuellement se financer par le biais du marché. Et puis souvent, quand vous avez des entreprises qui n'étaient pas cotées, c'est aussi une manière pour leurs actionnaires, leurs dirigeants, de valoriser leur fortune à un moment donné. On l'a eu récemment avec Glencore Xstrata dans le domaine de la mine et du négoce. Dans les situations, alors au contraire, un petit peu plus difficiles, lorsque il faut arriver à provoquer la fusion. J'ai oublié. Il y a une entreprise qui a été une fusion transnationale assez réussie, qui s'est mal terminée, c'était Arcelor. Arcelor était une fusion dans laquelle vous aviez l'Arbed luxembourgeoise, vous aviez Aceralia espagnole et vous aviez Usinor, Sasilor. C'est devenu Arcelor. Ça a été une vraie entreprise européenne. Bon, Mittal les a rachetés. C'est une autre histoire.
Vous nous parlez de ces réussites. Alors, il y a aussi des échecs. En l'occurrence, l'actualité nous offre un exemple de fusion apparemment ratée. C'est le rachat de Monsanto par Bayer qui semble virer au cauchemar. Et pourtant, le projet du géant allemand de la chimie ne semblait pas absurde. Il y a un an, Philippe Chalamin.
C'est pas une fusion, ça. Ça, c'est un achat. Monsanto avait essayé l'année précédente de racheter le Suisse Syngenta. Parce qu'il y avait un sens à mettre ensemble les semences, les phytosanitaires, etc. Finalement, Bayer achète Monsanto. Je dis bien, c'est un achat. Ils ont d'ailleurs fait disparaître le nom de Monsanto pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Mais il y avait du sens.
Il y a un achat considérable, 63 milliards de dollars.
Absolument. Bon, là, c'est un ratage. Pourquoi ? Alors, pas tant, je pense, du point de vue des cultures, car là, de ce point de vue-là, ils étaient bien complémentaires. Monsanto reste quand même le leader mondial des OGM. Je sais bien qu'en France, c'est très mal, mais dans le monde entier, les OGM, c'est quelque chose d'important. Il apportait quand même un portefeuille de phytosanitaire relativement important. Il apportait aussi le problème du glyphosate. Et lorsque vous avez des tribunaux américains qui condamnent l'ex-Monsanto devenu Bayer à hauteur de plusieurs milliards de dollars, on a aujourd'hui un millier de plaintes que supporte Bayer.
11 200 plaintes déposées aux États-Unis liées au glyphosate.
C'est un ratage, mais je dirais que c'est une erreur. Ils ont sous-évalué le problème glyphosate. Bon, ils avaient l'information, mais je pense que non. Je pense honnêtement qu'ils ont sous-évalué le problème glyphosate, cette montée en puissance de l'environnementalement correct.
Oui. Enfin, c'est la question, en l'occurrence, il y a un certain nombre de procès qui ont lieu actuellement. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que Bayer, effectivement, n'avait pas anticipé que le fait simplement de supprimer le nom de Monsanto n'allait pas faire disparaître toutes les affaires liées au glyphosate.
Je crois qu'effectivement, Bayer n'a pas du tout anticipé ce qui allait se passer chez Monsanto. Donc, d'ailleurs, ils ont payé une prime énorme. Donc, ils étaient prêts à payer beaucoup donc pour un rapprochement qui, de leur point de vue, peut-être allait créer de la valeur. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et quand on parle de réussite ou d'échec, c'est toujours délicat parce qu'en fait, si on parle de réussite ou d'échec, c'est de point de vue de qui. Il faut dire que dans les acquisitions, en règle générale, pratiquement toutes les acquisitions détruisent de la valeur pour les actionnaires de l'entreprise qui acquiert. Et généralement, c'est l'entreprise qui est acquise qui gagne. Donc vraiment, même s'il y a un gain global, même s'il y a des synergies, donc même dans les opérations qui sont, on va dire, des bonnes opérations dans le sens où elles créent de la valeur, en fait, la valeur n'est pas du tout partagée de la même manière entre les deux entreprises.
Et c'est là qu'il faut voir la question des salariés. Vous voulez réagir d'abord?
Oui, ce qui me paraît clair, si on prend l'industrie automobile, c'est que c'est déjà très difficile quand on acquiert. Même quand on pense avoir les rênes, entre le pouvoir théorique et puis la capacité à orienter les ingénieries, les usines, etc. dans le sens souhaité, il y a un problème. Évidemment, quand on est dans une alliance entre égaux, et je pense que l'expérience de Renault avec Nissan est plutôt de ce type-là, même si Renault est majoritaire, parce que le deal qu'avait passé Schweitzer consistait à dire nous allons être une espèce d'actionnaire contrit qui ne fera pas le job comme on le fait quand on est Bayer face à Monsanto, typiquement. Eh bien, même là, on s'aperçoit que la difficulté est quand même très importante. Donc moi, j'aurais tendance à dire au management de Renault et au ministère de l'économie aujourd'hui, ayez un peu de mémoire quand même, et sachez que c'est toujours plus compliqué que ce qu'on escompte.
Et puis il faut voir aussi maintenant l'impact des fusions d'entreprises sur les salariés. Dans le cadre du rapprochement entre Fiat Chrysler et Renault, les salariés français et italiens ont des raisons de s'inquiéter selon vous, Bernard Julien ?
C'est-à-dire qu'on a un engagement qui consiste à dire on fermera pas de site, ce qui est un engagement extrêmement classique, qui a deux défauts de mon point de vue. Un, ne pas fermer de site, ça ne veut pas dire ne pas supprimer d'emplois. Et je vous dirais que et Fiat et Renault sont des grands spécialistes du dégraissage sans fermeture de site. Mmh. Donc ça veut dire que on supprime une ligne de production, on supprime une équipe sur une ligne, on sort tous les intérimaires et finalement
pour
on
éviter
pas
la
du tout
symbolique de la fermeture d'un site
voilà,
de production.
Donc ça, on sait faire, si vous voulez, dans cette industrie-là. Accessoirement, les grands délocalisateurs dans l'industrie européenne, ça a été Fiat vers la Pologne, ça a été Renault vers la Turquie, la Roumanie et la Slovénie. Par conséquent, l'idée que l'actionnaire étatique préserve l'emploi dans le pays d'origine est une fausse idée de mon point de vue. Et puis ensuite, évidemment, ce qui est vrai dans une conjoncture relativement haute, comme c'est le cas encore en 2019 en Europe, cesse de l'être dès que le marché se retourne, où là on a de bonnes raisons managériales pour dire que les engagements pris il y a quelques années ne valent plus grand-chose désormais.
On l'a dit, l'État français sera actionnaire de la future entité, si elle existe, à hauteur de 7,5%. Et du coup, ce qu'on peut entendre du côté italien, ce sont des inquiétudes justement en disant l'État français va défendre les sites de production en France et ce sont plus des sites italiens qui seraient menacés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je relisais avant de venir ce que Schweitzer disait dans ses mémoires de ses rapports avec l'État. Il dit très clairement que l'État ne l'a jamais empêché de fermer aucun site, et en particulier l'île Seguin. On est dans un rapport des entreprises, y compris avec actionnariat public, avec les États actionnaires éventuellement, qui est très très contrebalancé par la capacité de raconter l'histoire de la compétition internationale, etc.
Patricia Charletti, sur le coût social des fusions d'entreprises.
Oui, alors le coût social des fusions d'entreprises, donc les fusions d'entreprises en général, c'est vrai qu'il y a relativement peu d'études qui ont examiné en profondeur les conséquences sur les salariés. Et c'est pas toujours clair que les salariés y perdent. En général, ceux de l'entreprise, pour le coup, acquises, y perdent plus. Donc c'est vrai qu'on a tendance d'abord à rationaliser dans l'entreprise acquise plutôt que dans la sienne. Mais les probabilités de perdre son emploi sont pas vraiment plus élevées dans les entreprises qui ont été rachetées que les autres, si on regarde sur un plus long terme. Quelque part, comme s'il y avait une restructuration qui était nécessaire. Alors, s'agissant de l'industrie automobile, avant cette émission, j'ai trouvé une étude très très intéressante qui date de début 2019 et qui indique effectivement que dans l'industrie automobile et tout ce qui est lié, il y a eu énormément de relocalisation, on le sait. Et c'est d'abord, en fait, les premiers pays, c'est l'Allemagne et la France, où il y a effectivement une relocalisation donc des chaînes de production vers l'Europe de l'Est. Et le Maroc, effectivement. Donc, dans une moindre mesure en Italie, mais c'est vrai que c'est frappant de voir que ça a déjà eu lieu sans qu'on ait beaucoup insisté finalement sur ces relocalisations.
Et est-ce qu'on peut dire que ce type d'opération, on arrive presque au terme de cette émission, ce sera ma dernière question, Philippe Chamelin, est-ce que ce type d'opération répond en quelque sorte à la volonté des dirigeants politiques de voir émerger des géants européens? On se souvient de l'échec de la fusion Alstom-Siemens qui avait été refusée par la Commission européenne. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la France, l'Italie, d'une manière générale, l'Europe a intérêt à voir ce genre de champions émerger ?
Disons que, à partir du moment où nous sommes sur la scène mondiale, j'aurais quand même tendance à dire oui. Et c'est vrai, c'est le seul point sur lequel je pourrais être un petit peu en désaccord. Si jamais le mariage Fiat-Renault ne se fait pas, ne pensez-vous pas qu'il y aura à ce moment-là...
La question s'adresse à Bernard Julien, pour les auditeurs.
Bernard Julien ou Patrice Charletti, ne pensez-vous pas qu'il y aura un beau chevalier blanc avec une armure chinoise venant et sortant de la Grande Muraille qui viendra les sauver? Souvenez-vous quand même, Renault-Volvo, ça aurait eu du sens. Et finalement, Volvo est chinois aujourd'hui.
Eh ben, ce sera une question qu'il nous faudra explorer dans une prochaine émission, parce qu'on arrive au terme de cette discussion. Un grand merci à Patricia Charletti, Philippe Chalmin et Bernard Julien de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Philippe Chalmin, je rappelle votre livre, Une brève histoire économique d'un long 20e siècle, paru aux éditions François Bourin. Il est 14h44 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué la pensée économique. Aujourd'hui, nous allons parcourir les pages de l'ouvrage Testament d'Anthony Atkinson, un essai sobrement intitulé « Inégalité ». Et pour ce faire, nous recevons Pierre Concialdi. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, l'IRES. Alors, « Inégalité » est le dernier ouvrage d'Anthony Atkinson. Et selon Thomas Piketty, qui a été son élève, c'est aussi le plus personnel. C'est également votre avis ?
Oui, il est personnel dans la mesure où il tranche pas sur la le fond, mais sur la forme, avec tout ce qu'a écrit Atkinson, qui était connu pour ses ouvrages, ses nombreux ouvrages académiques, ses centaines d'articles aussi académiques sur le sujet. Là, il s'adresse au grand public, donc c'est ça qui est nouveau dans la démarche.
Et c'est aussi l'ouvrage dans lequel il formule les propositions les plus radicales.
Alors radical, comme il le dit souvent dans son livre, c'est un mot que certains emploieront sans doute, mais lui montre que justement tout cela n'a finalement rien de radical, et que c'est juste peut-être remettre un tout petit peu des choses à l'endroit, notamment en matière d'inégalité.
Alors comment présenter d'abord Anthony Atkinson en quelques mots, Pierre Concialdi ?
Atkinson, en fait, il est né en 44, voilà, il a commencé sa carrière universitaire dans le milieu des années 60, au milieu en 1966. Il est aussi connu pour un indice qu'il a construit, qui s'appelle l'indice d'Atkinson, qui est aussi, qui est en fait le même que celui construit par un chercheur français qui s'appelle Kolm, et qui présente la particularité de ne pouvoir être utilisé que si on entre, comme on dit, l'aversion pour l'inégalité.
Qu'est-ce que ça signifie?
On a une certaine préférence par rapport à une distribution. On préfère que les transferts qui vont plutôt vers les riches ou vers la classe moyenne. Et donc, ça, c'est implicite quand on utilise un indice d'inégalité. Il y a toujours une fonction de pondération, en fait, de ce genre de choses. Et Atkinson a construit un indice qui rend explicite tout cela. Et l'autre particularité qui est aussi très intéressante, c'est que il a une interprétation très, très simple, cet indice. C'est-à-dire, si l'indice d'Atkinson vaut 0,2, 20%, ça veut dire que si tous les revenus étaient répartis de façon inégalitaire, on pourrait avoir le même bien-être social avec un revenu global inférieur de 20%. Autrement dit, il y a un coût social des inégalités. C'est comme ça qu'on le présente dans la littérature.
Et alors Atkinson est connu véritablement pour avoir été un pionnier justement dans l'étude des inégalités. C'est dès les années 60 qu'il essaye d'expliquer un certain nombre d'inégalités en s'appuyant notamment sur l'histoire.
Oui, si on reprend les trois domaines que définissait Schumpeter pour qualifier ce que représentait l'économie scientifique, c'est-à-dire l'histoire des faits, la statistique et la théorie, on peut dire que Atkinson a été un économiste complet, parce qu'il a effectivement eu des apports majeurs sur chacun de ces champs. Un de ses premiers ouvrages, c'est sur la distribution des patrimoines de la richesse au Royaume-Uni, où il a déjà, avec un collègue, compilé des tas de statistiques, d'archives pour d'une part restituer l'image de cette évolution, et puis en donner aussi des clés d'interprétation.
Alors, venons-en maintenant à l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, donc intitulé « Inégalité ». La première partie de cet ouvrage est consacrée au diagnostic. Atkinson montre comment les inégalités ont recommencé à augmenter à partir des années 80 dans certains pays, à commencer par les États-Unis. Alors, comment l'économiste britannique explique-t-il ce phénomène, Pierre Concialdi ?
Il l'explique de plusieurs façons. Il y a plusieurs phrases qui reviennent souvent dans l'ouvrage. C'est qu'Atkinson dit en début d'ouvrage, l'économie c'est pas une science naturelle, c'est le produit de résultats de décisions humaines, politiques, d'organisations internationales, etc. Et c'est aussi le résultat de rapports de force qui peuvent changer. Et donc, par rapport à la question que vous posez, ce que montre Atkinson, c'est que ce rapport de force, il s'est construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur un consensus, qui était celui qu'on appelle les politiques keynésiennes, pour aller vite, de la mise en place notamment des assurances sociales, de certain nombre de régulations sur le marché du travail, et que ce rapport de force a changé à la fin des années 70. Alors, les retournements sont différents selon les pays, bien sûr, et les phénomènes ne sont pas non plus de même ampleur, mais dans l'ensemble, la tendance, quand on la regarde sur une très longue période, elle est quand même la même dans tous les pays. Et c'est ce changement de rapport de force qui explique finalement le retournement vers une croissance des inégalités, pas dans tous les pays et pas de même ampleur dans tous les pays, mais vers cette inégalité croissante.
Il y a un aspect intéressant dans cet ouvrage d'Atkinson, c'est que pour lui, l'égalité de chance ne suffit pas. Il faut un degré d'égalité de résultat. C'est un aspect important de cet ouvrage.
Oui, il commence son ouvrage là-dessus. L'égalité des résultats, c'est un moyen pour aboutir à l'inégalité des chances, parce qu'on sait que s'il y a inégalité des résultats ou trop forte inégalité des résultats, ça va avoir un impact sur les conditions de départ, notamment des jeunes générations. Il y a une reproduction des inégalités, pour le dire autrement. Mmh. Et donc lui, il renverse un petit peu le raisonnement qu'on a souvent en disant c'est la condition nécessaire, l'égalité des résultats, en tout cas une certaine égalité, pour avoir l'égalité des chances.
Et puis il refuse peut-être cette idée d'une vie sociale vue comme une compétition avec des gagnants qui seraient peut-être trop rémunérés à la fin de ce jeu.
Et ce sur quoi il met la différence, c'est que il insiste, c'est de dire que la structure des récompenses, comme il dit, doit être équitable. Je vais l'illustrer par une formule qui revient souvent dans la bouche de certains économistes, c'est « the winner takes all », le gagnant prend tout. Pourquoi ne pas rester dans un schéma de concurrence? Mais il faut que la structure des récompenses soit pas si excessivement inégalitaire qu'elle empêche les autres, au moins, d'aboutir à des conditions de vie décentes.
Alors, il y a un deuxième grand facteur d'inégalité pour Atkinson et qu'il met en valeur dans son ouvrage, c'est la transformation technologique. En quoi la révolution numérique aggrave-t-elle les inégalités, selon lui, Pierre Concialdi?
Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un facteur dont on parle très peu, en fait, quand on parle d'inégalité. Ce qu'il explique en très résumé, c'est qu'on est dans un système où les choix technologiques sont pas maîtrisés collectivement. Et dans la longue durée, on observe des choix technologiques qui se traduisent par une augmentation du rapport entre capital et travail, qui pèse, en disant, sur la répartition macroéconomique du revenu. Mmh. Et ce qu'il explique également, c'est que ces changements technologiques, ils ont aussi une incidence sur la composition de ce qu'on produit. Donc, il prend l'exemple des robots qui vont, sur des chaînes automobiles, peindre à la place d'hommes. Il dit, bon, ça, on peut peut-être l'accepter parce qu'on conçoit que ça économise du travail. La vraie question, comme il le dit aussi, c'est à qui appartiennent ces robots? Comment doit être partagé, comme on dit, ces fruits de productivité?
Plus, ça peut même libérer du travail, éventuellement.
Ça libère du travail, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est la vraie question. Voilà. Et il prend aussi l'exemple parce qu'on, on parle de l'industrie quand on parle robotisation, mais on est dans une société où on consomme de plus en plus de services. Et cette dimension humaine, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit dans ce qu'on produit, il faut préserver, inclure de plus en plus cette dimension de service humain, comme il dit. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre collectivement, autant que possible, la main sur ses choix technologiques.
Plus largement, il cherche véritablement à démontrer dans cet ouvrage, et d'ailleurs dans l'intégralité de son œuvre, que l'économie, c'est une science morale et sociale, et c'est pour cela qu'il a critiqué un certain nombre de ses collègues, que ce soit dans cet ouvrage ou dans d'autres, Pierre Concialdi.
Disons que c'est un économiste qui affiche ses préférences, voilà, c'est ce qui est aussi d'atypique dans ce livre, alors que les économistes en général font comme s'ils n'en avaient pas, bon, on en a tous. Et lui, il a des préférences morales très clairement affichées, qui sont difficilement réfutables, à mon avis, et c'est ce qui le conduit à formuler un certain nombre de propositions. Il a, sur la technologie, il a une formule, il dit « ça ne vient pas des dieux la technologie, c'est le résultat de choix humains, et donc on a la capacité ». D'agir sur ce soi humain.
Vous l'avez dit, Pierre Concialdi, Atkinson formule un certain nombre de recommandations dans cet ouvrage, des recommandations donc pour lutter contre les inégalités, et il propose notamment de créer un héritage universel qui serait versé à la majorité, ainsi qu'un revenu de base pour les enfants qui existerait à l'échelle européenne. C'est ainsi que l'on parviendra, selon lui, à une véritable égalité des chances.
Oui, je pense que Atkinson, comme il a une vision moins simpliste de la réalité, un de ses messages qui parcourt son livre, c'est il faut pas se limiter à ce qui se passe sur la sphère de la redistribution, mais il faut aller en amont pour agir sur les inégalités, sur les choix technologiques et notamment sur la distribution du capital. Et c'est pour cette raison qu'il dit l'idée de proposer un héritage minimum que chacun pourrait percevoir, avoir accès à l'âge adulte, c'est une façon de introduire un minimum d'égalité et donc de réduire les inégalités.
Et il le financerait en taxant de façon progressive les héritages par ailleurs.
Oui, il fait référence à John Stuart Mill, qui est donc un économiste du 19e siècle, il faut le rappeler, qui formulait la même proposition au milieu du 19e siècle, un économiste utilitariste très classique. Et lui, ce qu'il propose, sa formule finalement qui a sa préférence, c'est Alors, il dit, il faut pas taxer ce que l'on donne, mais ce qui est reçu. Hein, en général. Et donc, ça voudrait dire avoir une sorte de compte où, pour chaque individu, on aurait tout ce qu'il a reçu comme héritage. Et au-delà d'une certaine limite, on commencera à taxer. Et effectivement, ce serait financé par une taxation progressive.
Et alors, d'où lui vient cette idée d'un revenu de base pour les enfants? C'est l'une de ses idées peut-être les plus originales, Pierre Contialdi.
C'est une idée qu'il a défendue depuis longtemps. Je pense que son idée de dire on accroche cette idée de revenu de base déjà pour les enfants, personne ne pourra le contester. Parce qu'il est incontestable, parce que personne ne peut contester que quand on a un enfant, il faut donner les mêmes chances à tous. Mmh. Et que la question de la désincitation ne se pose pas pour eux.
Alors, dans une dernière partie, Atkinson anticipe les objections qui pourraient lui être faites, et notamment cette idée selon laquelle la redistribution réduirait la taille du gâteau, c'est-à-dire le montant total des revenus d'un État. Quelle est la réponse d'Atkinson à cette critique qu'il se formule à lui-même, en quelque sorte?
La critique, elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux dilemme, comme disent les économistes, entre équité et efficacité, et que si on veut accroître l'équité, on perd en efficacité. Ce que répond Atkinson, c'est que tout ça serait vrai, encore une fois, dans le monde irréaliste des manuels, mais que la question se pose différemment, parce qu'on ne peut pas faire table rase de la société et des institutions dans lesquelles on vit. Et si on prend en compte cette réalité, alors il y a de multiples chemins possibles, et il y a de multiples équilibres. Et il illustre ça par plusieurs exemples tirés de champs spécifiques de l'analyse économique, notamment le marché du travail et ce qu'on appelle la théorie du salaire d'efficience. Salaire d'efficience qui contredit l'idée qu'il y aurait pour chaque personne, travailleur, une productivité donnée et que donc il faudrait que le salaire s'ajuste à cette productivité. Mmh. Hein, ce que dit Atkinson et ce que dit cette théorie, c'est que ça n'est pas vrai. Si on augmente le salaire, la productivité peut augmenter. Et ce que dit Atkinson, ce que dit cette théorie, c'est que proposer un salaire au-delà du salaire minimum permet d'établir un échange. Donc il y a un jeu gagnant-gagnant. Enfin, qui existe aussi dans la réalité, parce que certains employeurs raisonnables pratiquent ça, qui fait qu'on n'a pas forcément ce dilemme, et qu'au contraire, on peut avoir encore une fois ce jeu gagnant-gagnant.
Pour conclure, Pierre Contialdi, quel est l'héritage de la pensée d'Atkinson? Qu'a-t-il apporté à la discipline économique, selon vous?
Il a apporté de la rigueur, il a apporté l'humilité, qui manque souvent peut-être à certains économistes. Puis je pense qu'il apporte aussi évidemment cette dimension morale, c'est-à-dire l'économie, c'est pas uniquement de produire, hein, c'est aussi des finalités. Et c'est en fonction de ces finalités qu'on doit évaluer l'action économique et les politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre.
Merci beaucoup Pierre Contialdi de nous avoir fait découvrir cet ouvrage d'Anthony Atkinson, Inégalité, paru au Seuil il y a 3 ans. L'économiste britannique nous a quitté le 1er janvier 2017, laissant derrière lui une cinquantaine d'ouvrages de référence, et l'un d'entre eux figure désormais en bonne place dans notre bibliothèque idéale de l'écho. Un grand merci.
It's a time to buy. Time for shopping, going to the store and make a choice. But everything she sees, it's like they're talking, talking at her with a different voice. Laura's head is buzzing, can't remember what she came here for. Couldn't keep her promise not to gaze at things she can't afford. Their shoes, bags, silk scarves, and dreams of summer days. And now she's writing a letter to her bosses for a raise. But then she passes the baby section with the tiniest shoes on.
On se quitte avec Cathy Melua, A Time to Buy. La semaine prochaine, on vous propose une série consacrée à l'économie de la rareté. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.
Have it all, have it all. Margaret
by the mannequin.